One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Iris Bray.
Je suis Gérard Bajman.
Ping pong. La culture sans limite. Ping pong.
Ce soir dans Ping Pong, des séries et des femmes, et pas n'importe lesquelles, la crème des séries télévisées habitées par des maîtresses femmes, des indestructibles qui prennent du plaisir et désinguent l'adversité quand elles ne jouent pas à se démolir.
Avec l'écrivain et psychanalyste Gérard Bajman qui scrute le regard dans nos sociétés contemporaines et s'intéresse aux séries en tant que symptômes. Après avoir analysé les experts pour les presses universitaires de France, ce sont les déglingueuses des séries, ces nouvelles femmes du XXIe siècle, qui seront au cœur de sa conférence vendredi prochain à Paris, passage de Retz.
Et avec la critique et universitaire franco-américaine Iris Bray qui publie « Sex and the Series, sexualité féminine, une révolution télévisuelle » paru chez Soap Éditions.
Il était une fois une jeune fille typique. Un jour, par hasard, elle se heurta à un jeune homme non moins typique. Ils découvrirent qu'ils avaient une foule de goûts communs. La radio. La télévision. Les trains. Bientôt, le jeune homme trouva la jeune fille attirante, désirable, irrésistible. Il lui demanda de devenir sa femme. Petite exception toutefois. Il se trouva que la jeune fille était une sorcière.
Souvenez-vous, au XXe siècle, les femmes dans les séries, c'était ça, ma sorcière bien-aimée. Rappelez-vous Samantha, mère de famille attentionnée, avec des pouvoirs kinesthésiques très pratiques pour ranger la maison. Bref, une sorcière au foyer. Mais alors, au XXIe siècle, Gérard Bajman, vous qui proposez donc une nuit des séries et de la psychanalyse, vendredi au passage de Retz, à Paris, avec toute une palanquée d'hommes et de femmes venus commenter des épisodes de séries qui seront projetés. C'est intitulé « Les déglingueuses, les nouvelles femmes du XXIe siècle, ces femmes dans les séries. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? On a toujours affaire à des sorcières?
Non, pas du tout. On a affaire à des femmes dont je suis encore en train de me poser la question de ce qui les définit en tant que déglingueuses. Je suis assuré qu'elles le sont, assuré en même temps que déglingueuses sont aussi, elles sont aussi déglinguées le plus souvent. Déglinguée en elle-même, mais aussi déglinguée par d'autres choses qui caractérisent aussi notre siècle, au fond le rapport en particulier à la science pour certaines d'entre elles. Mais on est en effet plus. Moi, j'ai le souvenir encore. Vous êtes évidemment trop jeune pour avoir vu Ma sorcière bien-aimée. Moi, j'adorais ça. Non, c'est Ma sorcière bien-aimée,
bien
c'est
sûr.
Ça
Bewitched,
moi, je l'ai vu.
En anglais.
Bon,
hein.
Oui, mais vous l'avez vu parce qu'il y a eu des... Oui, on l'a ressorti,
rediff,
mais moi,
comme on dit.
Moi, je l'ai vu, oui, enfant. Enfin, enfant, non, adolescent. Je trouvais ça absolument formidable. Mais maintenant, c'est vrai que la baguette magique a plutôt été remplacée par autre chose. Enfin, l'image que j'ai mise sur l'affiche de cette nuit que vous citiez aimablement ne ressemble pas du tout à une baguette magique, Emma. Et puis elle bougeait son nez aussi pour refaire apparaître
avec une petite clochette caractéristique.
Oui, c'était absolument délicieux.
Alors décrivez-nous simplement cette jeune femme. Alors c'est cette déglingueuse qui est sur le flyer.
C'est un peu fake tout ça parce que l'image ne vient pas d'une série. Elle vient d'un film de Rodriguez, le copain de Tarantino. C'est un film que j'aime énormément et c'est vrai que j'ai cherché un peu des images. On ne voyait pas tout de suite en quoi elles étaient déglingueuses. J'aurais pensé a priori dans le cinéma, je les aurais trouvées plus facilement, peut-être encore plus facilement chez Tarantino. Mais là, il y a aucune ambiguïté. C'est-à-dire là, c'est une femme assez légèrement vêtue, bon, et qui s'est fait greffer à la place de la jambe AK-47 ou Kalachnikov, enfin je ne sais pas quelle arme, et donc elle est armée. Physiquement, si je puis dire, mais au lieu de porter l'arme dans ses mains, dans ses bras, elle l'a, c'est sa jambe, elle marche dessus.
Iris Bref, vous êtes spécialiste de la représentation du genre au cinéma et dans les séries. Vous publiez donc ce Sex and the Series, une révolution télévisuelle, avec des déglingueuses bien sûr, en vous attachant à un aspect qui est plutôt rare dans les publications d'université française, qui est la représentation de la sexualité féminine. Alors, quand on écoute cet extrait de Ma sorcière bien-aimée, quand on se souvient que Samantha accepte de renoncer à ses pouvoirs pour son mari, on se dit que symboliquement, on partait de très très loin.
Oui, mais alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de sorcières aujourd'hui, notamment dans la série Game of Thrones, où il n'y a presque que ça, hein, Mélisandre, mais aussi Khaleesi. Et c'est assez intéressant aussi, parce que dans la définition des déglingueuses que vous proposez, ce sont des femmes qui sont sans maître, en tout cas ce que j'ai lu. Et c'est vrai que dans Game of Thrones, je trouve que c'est une question vraiment intéressante, en fait, pour parler non seulement de sexualité féminine, mais de femmes au pouvoir, puisque les femmes qui sont sans maître se font quand même systématiquement violer, ou en tout cas sont dans des représentations de sexualité féminine qui, elles, ne sont pas du tout, elles ne sont pas du tout montrées comme étant indépendantes ou en tout cas centrées sur le plaisir féminin, mais toujours dominées par l'homme. Oui, on a changé, il y a une vraie évolution depuis Ma sorcière bien-aimée, mais on est quand même toujours souvent dans des schémas quand même où la femme a du mal à se libérer du regard de l'homme sur elle.
Vous qui travaillez sur les séries et le cinéma, un personnage comme celui de Michelle Rodriguez et le film Machete, justement cet univers donc de femme prothétique avec une jambe flingue, voilà, ça c'est pour vous une évolution en tout cas dans la symbolique où on retrouve encore des invariants masculins.
En fait, cette image-là, pour moi, elle est vraiment intéressante autour de l'idée de la prothèse. En fait, ça me fait penser aux femmes handicapées qui sont presque jamais représentées dans les séries télé. Et les femmes handicapées, leur sexualité, souvent, est extrêmement taboue. Et je pense, en fait, tout de suite, enfin, je fais un raccourci, mais je pense à la série de Shonda Rhimes, Grey's Anatomy, où on a un des personnages principaux qui s'appelle Arizona, qui est lesbienne et qui, enfin, je spoil pas, hein, mais elle a un accident et elle perd sa jambe. Et il y a une scène...
Spoiler, ça veut dire donner des informations, voilà, gâcher le suspense.
Voilà, mais bon. Et il y a une scène d'amour où elle fait l'amour avec sa femme et, en fait, la prothèse devient quelque chose d'érotique. Et je trouve ça vraiment intéressant, en fait, de voir des choses avant qui diminuaient, en fait, les personnages qui deviennent une force, et une force même érotique. Je trouve que c'est vraiment intéressant.
On avait Cronenberg, tout de même.
Crash,
avant,
en particulier.
On avait Crash.
Gérard Vagemann.
Oui, qui était tout de même... D'abord, c'est un film génial. Et de ce point de vue-là, en effet, vous avez raison sur les femmes appareillées, mais qui devenaient des objets d'un érotisme absolument ravageur.
C'est le féminisme prothétique de Donna Haraway, par exemple, cette théoricienne du cyberféminisme.
Ben, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que, en tout cas, dans les séries, c'est l'objet érotique. En fait, elles sont des objets érotiques, mais elles sont aussi sujets. C'est-à-dire qu'on est dans ces scènes de sexe du point de vue de la femme. Et ça, c'est différent, en fait. Je trouve que c'est ce qui est intéressant dans les séries. En fait, c'est ces histoires de regard et finalement d'avoir pas que les hommes qui regardent les femmes comme objets érotiques, mais d'avoir vraiment des femmes sujets.
Gérard Vagemann, puisqu'on est dans le vif du sujet à propos de cette représentation des femmes et du plaisir, que ce soit en mode rafale, comme une arme automatique ou autrement. Il se trouve que dans l'argument que citait Iris Bray de cette soirée, les déglingueuses nuit des séries et de la psychanalyse, vous rappelez donc que les femmes dans les séries aujourd'hui sont des femmes sans maître, disons qu'elles semblent animées par quelque chose de sans limite. Et en préparant cette émission, je suis tombé sur les propos de Anne Landois, showrunner, donc maîtresse de cérémonie, scénariste en chef de la série française Engrenage, qui a pu dire « J'écris des séries pour raconter des histoires sans fin ». Comme les mille et une nuits. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce sans limite tel qu'il se voit et tel qu'il s'interprète dans les séries où les femmes d'aujourd'hui sont représentées?
Oui, enfin, oui, bien sûr que je peux en parler, mais la question, elle est liée finalement. Je suis obligé de rembobiner un peu, c'est-à-dire de.
Ça se faisait au XXe siècle avec des VHS, oui.
Ce que je veux dire, c'est. La question. Le sans limite, c'est quelque chose qui réfère au fond à la jouissance féminine aujourd'hui. Et donc c'est pas tant la sexualité qui est en cause, parce que je me suis pas absolument arrêté, c'est très bien, je comprends très bien que vous vous arrêtiez, vous, à la question de, enfin, arrêtiez, que vous vous centriez sur cette question de la sexualité. Mais, moi, je me suis pas centré là-dessus. Mais en revanche, sur quelque chose qui amène toujours, quand on voit un certain nombre de séries, parce que ce que je peux en dire ne vaut que pour un certain nombre de séries, je vais pas essayer d'en faire entrer tout systématiquement dans le jeu, qui fait qu'on se pose parfois donc cette question, qu'est-ce qui les anime, ces femmes? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Personnage central à certains égards de ça, c'est Carrie Mathison dans Homeland. Alors là, typiquement déglingueuse déglinguée, mais très déglinguée, qui se fait même foutre dehors de la CIA parce que on découvre qu'en fait elle suit un traitement parce qu'elle est, comme on dit, bipolaire aujourd'hui. Bon, et c'est une question qu'on peut se poser. Elle est sans maître au sens. On ne sait pas, elle ne respecte aucune des autorités qui sont supposées être au-dessus d'elle, et on ne sait pas du tout ce qui l'anime, elle, véritablement. Enfin, qu'on ne sait pas, on se pose la question, et c'est un moteur, véritablement, de l'histoire, de savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche, elle, dans tout ça.
My name is Carrie Mathison. Carrie Mathison is a CIA officer. She works in Homeland Security, was sort of relegated to the realm of analysis, which is not really her game.
I can't collect intelligence from behind a desk.
She has a very adventurous, intrepid spirit. She's very passionate, to a dangerous extent.
You think for 1 minute you get away with this?
She's also bipolar, which is something that she has to conceal from her colleagues. She's like a secret agent. She's getting by, but it's a little precarious. Maybe it is all in my head, but you're in it now, Virgil. Up to your fucking neck. You know, she's a bit of a maverick.
You will raise no eyebrows in there.
I promise. But she means well.
Don't leave me like this.
Voici donc Carrie Mathison dans la série Homeland dont vous nous parliez à l'instant, Gérard Vajman. Elle est aventureuse, elle est bipolaire, elle est un agent secret. Elle dit aussi qu'elle n'est pas faite pour l'analyse, mais au sens du traitement des données statistiques. C'est une sorte de cas clinique au sens noble du terme pour un psychanalyste épris de séries télé comme vous. Alors, quel est le secret, si vous avez pu le percer, de cet agent secrète?
Non, bien entendu que j'ai pas pu le percer. Et je crois que c'est ça un des ressorts de cette série, et pas seulement de celle-là. C'est cette interrogation de ce que ces femmes, elle et un certain nombre d'autres, peuvent vouloir. Et qu'est-ce qui les motive? Moi, j'ai évidemment aucune raison. Si je disais, par exemple, si je me contentais de la référence clinique qui est donnée dans la série, elle est bipolaire, c'est nul. Enfin, d'abord, c'est pas une interprétation parce que c'est dit, je peux aller me coucher comme psychanalyste. Et j'en ai pas d'autres à fournir qui soient plus intéressantes. Je crois que la référence, je n'ai mis au crible dans cette série, rien n'est criblé du point de vue de la psychanalyse, finalement. En revanche, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette explosion de la position des femmes. Moi, c'est-à-dire que je n'ai pas abordé du tout, la question m'a importé de ces séries, la question des femmes dans les séries m'a importé, pas tant parce que pour des raisons historiques qui tiendraient à mon intérêt pour l'évolution du statut de les femmes, qui m'intéresse comme personne, comme citoyen, comme psychanalyste, comme tout ce qu'on voudra, mais parce que ça crève l'écran, si je puis dire, de voir qu'il y a un nouveau type de personnage qui est arrivé, en particulier dans les séries, pas seulement dans les séries, parce que je pourrais dire tout de même un mot sur l'origine de ça, à mes yeux, qui n'est pas très lointaine, et que ces personnages-là témoignaient de ce qui me semble être le moteur de toutes ces séries-là, modernes, de toutes, je retire le tout, mais d'un certain nombre d'entre elles, majoritaires peut-être, c'est... Elle comptabilise l'état des jouissances aujourd'hui. Quand il n'y a plus de maître, quand on est dans un temps, plus les idéologies sont tombées, on n'a plus de... Quand je dis qu'elles sont sans maître, c'est aussi, elles ne sont motivées par véritablement rien, aucun idéal, ni des idéologies, rien ne les motive. Carrie Mathison, elle est pas, c'est pas une anti, elle est pas menaçante pour le monde arabe. C'est pas ça qui la motive. C'est, elle rencontre un type dont elle se dit manifestement qui est un Américain. C'est pour ça aussi que la série est très importante.
Oui, un soldat américain qui rentre au pays.
Américaine,
on se demande à quel point il a été retourné par l'ennemi.
L'ennemi est chez nous. Enfin, il est dans la maison. Et c'est ça qui va d'un seul coup l'animer, elle, mais pas du tout le fait qu'elle veut la mort de tous les musulmans. C'est pas du tout la question qu'elle se pose. Mais elle est animée par quelque chose dont nous ne savons pas véritablement ce que c'est. Et ça, je pense que ça doit, finalement, quand on les regarde toutes ces séries, enfin, toutes celles qui m'importent, en tous les cas, ça donne l'idée qu'il y a chez ces femmes quelque chose qui tient d'une jouissance sans frontières, mais absolument explosive, et qui peut donner, pour le coup, qui peut prendre cette forme de clinique de, on appellera ça bipolaire, par exemple. Mais la clinique est réductrice. Quand on dit, quand on prononce un diagnostic de ce genre, c'est extraordinairement réducteur sur un personnage comme Carrie Mathison, qui est beaucoup plus grand que son tableau clinique.
Iris Bray a une réaction sur cette appellation, cette jouissance sans limite, ce concept que nous propose Gérard Vachman pour ce personnage de Carrie Mathison. Et vous qui analysez aussi, on va dire, le plaisir, le désir féminin et aussi les relations de violence et les relations qu'on appelle BDSM dans ce livre sur le sexe et les séries.
Sadomaso pour faire un sous-titre, un peu simplificateur.
Oui. Bon, alors, il y a plusieurs choses.
Attention,
parce qu'on va partir dans plusieurs directions. La première chose sur Carrie Mathison, pour vraiment parler, elle, de la représentation de sexe-sexualité, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle utilise les hommes, et notamment ce soldat-là, pour arriver à ses fins, mais aussi un jeune homme, à un moment, qui est vierge, qu'elle séduit totalement, et après, elle sait très bien qu'il va mourir, en fait, en couchant avec elle. Donc, il y a quelque chose de presque mortifère, déjà, dans sa sexualité. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un personnage de mère. Encore une fois, j'avance un peu dans les saisons, pour ceux qui n'ont pas tout vu, mais elle va devenir maman. Et je trouve qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'arrive pas à être dans le même espace physique que sa fille quand elle décide d'avoir des relations sexuelles avec des hommes. Donc, il y a quelque chose qui m'intéresse en fait dans Homeland autour de ça. Concernant la jouissance explosive, pour reprendre vos termes que j'aime beaucoup, j'aimerais ramener ça à quelque chose peut-être de beaucoup plus réducteur, mais qui est quand même l'orgasme féminin. Et c'est vrai qu'on a une explosion d'orgasme féminin en ce moment dans les séries télé. On voit des femmes qui jouissent en plein écran. On a des séries qui filment ça et qui s'emparent aussi de cette chose qui paraît très simple, mais qui est très peu montrée. Et alors, pour revenir sur les violences...
Vous rembobinez,
puisque,
vous aussi.
Voilà, je rembobine. Oui, bah, toutes les... C'est vrai que récemment, en fait, la question de la violence et de la sexualité... est articulée de manière différente dans des séries, parfois comme quelque chose de positif dans les rapports BDSM, voilà, comme des vrais jeux sexuels, et puis parfois des choses beaucoup plus graves et des violences dont on parlait aussi, qu'on représentait assez peu récemment, comme le viol ou l'inceste, même si, voilà, ce que je dis dans mon livre Sex and the City, c'est qu'en fait l'inceste entre le père et la fille, qui est quand même celui qui est le plus récurrent, lui n'est jamais montré, mais l'inceste adelphique entre frères et sœurs, par exemple, est quelque chose d'assez à la mode en ce moment.
Le générique des Desperate Housewives, si vous ne l'aviez pas reconnu, ça vous a accompagné durant vos gender studies, comme on les appelle, Iris Bray. Et c'est aussi l'introduction de votre livre. Vous avez tenu à l'analyser comme un générique annonciateur de nouveaux rapports entre les hommes et les femmes, de nouvelles figures féminines au cinéma. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire ce petit exercice de sémiotique auquel vous vous êtes prêté pour les auditeurs?
En fait, c'est vrai que moi, j'ai découvert les séries aux États-Unis, mais je faisais des études de grec ancien, en fait, pas du tout de gender studies, mais du coup, Desperate Housewives m'amusait beaucoup le soir en rentrant plutôt que ma traduction. Et je voyais, en fait, dans cette représentation de cette pomme qui écrase Adam dans ce générique, quelque chose d'assez intéressant pour commencer ce livre, puisque C'est vrai que ces séries à partir des années 2010, mais vraiment plus récemment, à partir, enfin là, c'est vraiment ces dernières années, on voit des personnages féminins qui s'accomplissent sans avoir besoin de mari, et c'est assez intéressant. En fait, c'est Desperate Housewives dans le titre même. Hein, on parle
femme
de la femme,
des femmes au foyer,
voilà. Et finalement, les hommes sont souvent évacués de la question, et la sexualité, même si elle est très peu représentée dans cette série, elle est évoquée notamment à travers le personnage de Brie de manière assez marrante, avec ses maris, son premier orgasme, ses premières relations BDSM. Et on arrive en fait à la télé aux États-Unis sur une chaîne comme ABC à faire passer des messages en fait qui vont très très loin, avec un langage souvent codé, mais il y a quand même des choses très intéressantes qui s'articulent dans ces séries là.
C'est-à-dire que ce que vous mettez en avant, c'était qu'il y avait aussi une hiérarchie qui était présente dans l'analyse des séries, qui est que traditionnellement, effectivement, les séries créatives de chez HBO, etc., comme The Wire, vont être décryptées, analysées. Bon, alors, Gérard Vachman, lui, s'est emparé des experts. Donc, voyez, vous aussi, vous avez pris comme ça des phénomènes populaire, parce que vous dites que finalement il y a aussi une hiérarchie culturelle, c'est-à-dire que malgré tout il faut regarder ces objets-là car ce sont eux qui ont une mission éducative beaucoup plus que des séries, on va dire, artistiques ou qui vont être cloisonnées à un public plus restreint.
Alors il y a deux choses. Je pense que déjà toutes les séries sont pas forcément une fonction éducative, mais je pense qu'on peut voir certains messages qui sont vraiment là pour faire l'éducation des spectateurs. Et après, comme dans tous les arts, il y a toujours cette notion de hiérarchie. Le cinéma a toujours été vu comme un médium, voilà, plus noble que la télé, puisque la télé, bah, c'est les femmes qui le regardent.
C'est la ménagère de moins de 50 ans.
Et voilà. Et donc ces séries-là qui sont pour la ménagère de moins de 50 ans, en fait, sont souvent regardées avec beaucoup de mépris, alors en fait, pour moi, c'est des séries très très importantes qui disent beaucoup de choses et qui sont extrêmement intelligentes dans leur écriture, puisqu'il faut savoir que ces séries-là, voilà, il y a une commission de censure aux États-Unis, la FCC, qui contrôle en fait tous les dialogues, et du coup, pour faire passer des idées révolutionnaires, elles doivent détourner la censure. Et je trouve ça en fait génial de voir comment ces showrunners et ces scénaristes arrivent en fait à dire des choses vraiment très importantes sur la sexualité féminine notamment, alors que des séries comme Breaking Bad, comme The Wire s'emparent d'autres sujets, mais c'est quand même, voilà, c'est le titre d'un livre, hein, Les Hommes Tourmentés, on est autour de ça. Moi, j'ai envie de voir des femmes déglingueuses, comme vous dites, je trouve ça un peu plus marrant.
Gérard Vachman, si on parle de l'objet série en lui-même, on dit une série en français et un film, les séries sont des objets télévisuels et donc qui peuvent être appréciés notamment par cette ménagère de moins ou de plus de 50 ans qui est sur son canapé quand elle a passé l'aspirateur qu'on lui a offert pour la fête des mères ou qu'on lui offrait jadis dans les pavillons des banlieues américaines. Autrefois, il y avait le Mother's Little Helper, la petite pilule chantée par les Rolling Stones pour aider maman à tenir le coup. Aujourd'hui, il y a peut-être les séries, il y a quelque chose qui a rapproché de, sinon la structure peut-être, du mode de jouir des femmes dans cet objet télévisuel qui est sans fin lui-même, j'en disais un mot tout à l'heure, qui est fragmenté.
Oui, alors sur le fragment, absolument. Sur le mode de jouir, j'en sais rien.
Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas adaptés
spécialement aux femmes, quoi. Je me suis pas posé la question, autant dire, je confesse.
Les séries, c'est pour les femmes, est-ce qu'on a envie d'entendre ça?
Oui, mais en plus, ça me féminiserait beaucoup, parce que je passe mes nuits, enfin non, pas toutes mes nuits, mais j'en passe tout de même un certain nombre d'heures devant.
Vous vous transformez à vue d'œil, d'ailleurs.
Mais et comment, si vous voyez...
Comme dans la série Amazon
non, Transparence. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose de... quand je me suis intéressé, par exemple, aux experts, c'est pour des raisons qui tiennent à ce que les experts racontent, mais c'était aussi avec en tête un tout petit peu cette question de savoir comment cette série, qui est tout de même emmerdatoire,
sur la police scientifique, technique et scientifique américaine, rappelons-le,
spécialement celle de Las Vegas, parce que les autres m'ont moins intéressé. Comment on pouvait avoir sans doute la série qui a été la plus vue au monde au moment où elle a été diffusée, et elle a été diffusée jusqu'à il y a encore pas très longtemps, donc ça fait 15 ans ou un truc comme ça, parce que c'est à partir de 2000. Je me suis posé de façon latérale cette question de savoir qu'est-ce qui avait animé ça, et ma réponse était plutôt du côté de ce qui faisait... vitrine publicitaire pour le discours de la science. Ça ne donne pas des raisons, d'ailleurs, parce que ce qui prouve, vous avez tout à fait raison, elles sont très très bien faites. C'est une série que j'ai pas pu voir en entier, parce que là, je serais épuisé à jamais, mais elles sont extrêmement bien faites, bien menées. La sexualité y est, alors là, pour le coup, très très peu mal dosée. Enfin, il y en a pas, il se passe rien, les personnages n'ont pas, quasiment pas de psychologie ou des petites touches. Sur 13 ans ou 15 ans de série, on se demande ce qui se passe entre eux. J'ai rien réussi à trouver. J'ai
essayé votre sous-titre, hein, c'est Les experts, la police des morts.
Moi, c'est ce que j'avais. C'était mon point de vue. Oui, c'était pas très bandant pour le coup, et je maintiens mon point de vue là-dessus. Ce que je dirais en revanche, qui peut avoir un écho, enfin faire écho à ce que vous, la question que vous posiez, c'est les séries en elles-mêmes. Et spécialement aujourd'hui, touche à quelque chose d'une jouissance qui n'est pas spécialement la jouissance des femmes, mais qui est la jouissance des spectateurs aujourd'hui, mais qui est la jouissance des sujets en général, c'est-à-dire le côté addictif. Il y a une consommation addictive. Et je le dis pas du tout en termes psychologiques pour dénoncer le fait que... Mais Jacques-Alain Miller, mon ami Jacques-Alain Miller, avait pu dire à un moment qu'aujourd'hui, au fond, le capitalisme a créé un système où toute consommation vise à l'addiction. C'est rien si l'addictif à tout. Et je ne vois pas pourquoi les séries y auraient échappé. Alors, moi, je suis pas tout à fait pour le capitalisme, mais je suis très pour les séries. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut condamner le caractère addictif? Moi, je suis addict à beaucoup de choses, il faut bien dire. Et en ce sens-là, je me tiens pour un garçon de mon temps. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui soumis à tout ça. Je vais pas le nier. Nous faisons partie, je fais partie de ce monde et je le subis. Et au fond, l'addiction aux séries me va extrêmement bien. Mais il devrait y avoir, comme on le dit pour les sucres, pour le sel, pour l'alcool, etc., nuit gravement à la santé.
Manger, bouger.
Mais non, moi, je ne veux pas bouger. Je veux regarder mon écran et je veux regarder les séries. Mais c'est vraiment un trait de l'époque, ça, le caractère addictif de la chose. Oui, c'est vrai.
Gérard Vajman, donc à vous son addiction.
Il la confesse.
Oui, oui. Oh, mais en même temps, voilà. Tout le monde ici fait du binge-watching, hein, c'est-à-dire avaler série en série. Vous, Iris Bray, il me semble que ce qui vous rapproche aussi du travail de Gérard Vajman, c'est que vous recherchez dans tout ça la trace du langage. Car il y a le visible, mais il y a aussi ce qu'on se dit. Est-ce que dans cette révolution sexuelle des séries, le grand absent n'a pas été longtemps le langage ?
Oui, mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le mot clitoris est totalement absent des séries, le mot orgasme clitoridien aussi, enfin quand on l'entend c'est dans des séries médicales comme Masters of Sex, donc c'est déjà quelque chose, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même l'anatomie féminine, elle est effacée du langage dans les séries, même dans le langage quotidien, donc je pense que de savoir nommer les choses c'est aussi les faire exister, et même si on ne peut pas représenter certaines choses à l'écran, en tout cas de les nommer, eh bien on les fait apparaître, et ça permet
c'est performatif.
Bah, c'est totalement performatif, et donc voilà, ça nous renvoie à la notion de genre comme performance, mais finalement la sexualité féminine, enfin les sexualités sont performatives, donc c'est intéressant de voir comment elles sont représentées. Et là, je regardais une série qui s'appelle The Girlfriend Experience qui est diffusée sur OCS c'est Soderbergh qui l'a produite, et c'est une série donc sur une call girl, donc une jeune femme qui se prostitue, mais que de manière enfin, de luxe, hein. C'est-à-dire que c'est $2000 pour déjeuner avec elle et aller dans une chambre d'hôtel. Et c'est vraiment passionnant, cette série, parce que justement, la jouissance féminine est vraiment présente dans presque tous les épisodes. Sauf que on ne la voit jouir, c'est cadré de manière à ce que ce soit jamais, en fait, excitant comme spectacle. Mais elle-même est dans la performance de son corps et dans la performance de sa sexualité. Et c'est elle qui mène la danse et qui dirige tout. Et ça, pour moi, on n'a jamais vu ça et c'est vraiment réjouissant.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, nous l'espérons, est réjouissante. Elle est en tout cas addicte à la parole de ses convives.
À suivre, donc, déglingueuse et réjouissance sans limite avec nos invités Iris Bray et Gérard Vajman.
Mais tout de suite, c'est l'heure du journal de la culture avec Zoé Sfèze. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir, bonsoir à tous.
Alors on va changer de sujet, l'espace d'un instant, le temps de votre dossier, puisque vous consacrez votre dossier ce soir Zoé, à ce rapport rendu la semaine dernière sur les effets du changement climatique. Les plus grands sites du patrimoine mondial sont concernés. Cette étude, commandée par l'UNESCO, à l'initiative du ministère de l'écologie français, fait collaborer une centaine de chercheurs à travers le monde pour évaluer les conséquences déjà très concrètes du réchauffement sur tous ces sites patrimoniaux, un rapport alarmant qui n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde.
Oui, alors le rapport indique en introduction que près de 1031 sites classés par l'UNESCO sont menacés dans le monde de manière plus ou moins pressante par le changement climatique. Mais plus qu'un état des lieux exhaustif, ce rapport a fait travailler donc des scientifiques locaux sur 31 sites éparpillés sur tous les continents et qui présentent un large éventail des maux qui sont liés de près ou de loin avec le réchauffement planétaire. C'est la première fois en fait que sont regroupées dans un même texte des informations sur des événements qui se sont déjà passés, alors que tous les rapports précédents évoquaient simplement les risques potentiels du réchauffement climatique. Aujourd'hui, la plupart des effets négatifs prophétisés il y a 20, 30 ou même 10 ans sont déjà arrivés quasiment tous réellement. Le but de ce rapport, évidemment, c'est de prendre les pays concernés par les sentiments, ou plutôt par le porte-monnaie, puisque la plupart des sites qui sont ici cités sont des hauts lieux de tourisme, et que le rapport montre combien les dangers qu'ils courent représentent aussi de véritables menaces pour l'économie des pays où ils se trouvent. Et par ailleurs, inciter les institutions à ne plus faire l'autruche, comme c'est le cas, notamment en matière de patrimoine, de sites culturels. Comme l'explique Peter Dubrain, il est responsable de projets à l'UNESCO, notamment en charge du tourisme durable et du changement climatique. C'est lui qui a coordonné ce rapport.
Venice obviously is a good example because again you see the impact of sea level rise it's having on you know because
Venise bien sûr est probablement le meilleur exemple parce que les conséquences de l'élévation du niveau de la mer sont déjà dramatiques pour la ville. On sait que le gouvernement italien a investi des milliards de dollars dans cette barrière censée protéger la lagune et baptisée Moïse. Elle est construite pour éviter les grandes marées. Mais alors qu'elle est à peine terminée, on sait déjà qu'elle sera impuissante face au vrai problème, la montée des eaux. Car de toute façon, la lagune monte. L'élévation de la mer est probablement la pire menace. Elle menace aussi tous les monuments de Londres et l'abbaye de Westminster en particulier, qui pourrait dès 2080 être sous l'eau. Un autre cas intéressant est celui de la Statue de la Liberté à New York. Depuis qu'elle a été dévastée par l'ouragan Sandy, le gouvernement essaye d'être proactif et d'anticiper.
More intense and more frequent, so we need to be prepared for that. So they invested a lot of money to help that. So that's kind of the forward thinking.
Et on doit à la vérité de dire, Zoé, que ce rapport avait aussi vocation à saluer donc les initiatives locales et à inciter les gouvernements à agir en amont, mais le message n'est pas passé, en particulier en Australie.
Oui, alors évidemment, car si le rapport mentionnait des sites culturels, on l'a entendu, avec toujours des conduites plus ou moins appropriées des gouvernements en face, il prend évidemment aussi en charge les sites naturels classés au patrimoine de l'UNESCO. Il y en a beaucoup, et parmi eux, l'un des plus emblématiques qui devait effectivement, évidemment, être traité par ce rapport, c'était évidemment la barrière de corail en Australie, dont on sait qu'elle est dans un état absolument catastrophique, notamment à cause du grand nombre de touristes qui y vont. Et trois jours après la sortie de ce rapport, donc juste vendredi, plusieurs chercheurs australiens qui avaient travaillé très longtemps sur cette partie du rapport donnent l'alerte. Les articles qu'ils avaient écrits ont tout simplement disparu du rapport. Et en effet, on s'en rend compte après, le gouvernement australien a tout bonnement fait effacer les passages qui concernent à la fois la Grande Barrière de Corail, les forêts de Tasmanie et le parc national du Kakadu, tous les trois menacés, pour ne pas faire fuir les touristes, indique clairement, en tout cas sans embâche, le département d'État australien. Mais aussi parce que le pays fait l'autruche depuis des années sur ce problème, rétorque Greenpeace Australie par voie de presse. Alors difficile d'évoquer ça avec l'UNESCO, puisque l'UNESCO est une organisation internationale dont l'Australie est partie. Et donc l'UNESCO a dû accepter cette demande d'effacer tout simplement cet article. Pour Peter Dubrain, qui est manifestement gêné, en tout cas, le message est passé.
En effet, l'Australie a préféré que la barrière de corail ne fasse pas partie des cas d'étude de ce rapport. Mais je crois que le plus important, c'est que nous ayons réussi à évoquer le problème du corail en travaillant sur d'autres sites dans le monde. Donc la question du corail est bien traitée dans le rapport et c'est le plus important. Encore une fois, je ne peux pas m'exprimer sur l'Australie, mais le plus important est que nous ayons pu faire passer deux messages. D'abord, nous avons une responsabilité partagée en matière de climat et tout le monde doit agir en signant l'accord de Paris. Et d'autre part, il y a urgence à se confronter au problème du patrimoine et à s'adapter pour protéger ces sites parce que nous pensions que nous avions du temps, mais les impacts sont déjà déjà visible et ça ira de plus en plus vite.
You know, perhaps thought we would have more time, but what we're seeing is that we don't. And some of these impacts we're seeing, and the acceleration of these impacts.
Voilà, alors préconisations nombreuses dans ce rapport qu'il faudra suivre ou pas. La France en a déjà pris acte puisque c'était l'une des commanditaires du rapport. Toute cette histoire d'Australie vient se caler sur un enjeu déjà très politique puisqu'en 2015, l'UNESCO avait décidé de ne pas classer cette grande barrière sur la liste du patrimoine naturel en danger et que ce nouveau rapport, dans sa version initiale, indiquait au contraire que cet édifice de corail était très vulnérable au changement climatique.
Tout de suite, on passe aux brèves Zoé avec la disparition d'un grand nom du regard.
Disparition de Charles Beach, figure emblématique de la nouvelle vague, critique au cahier du cinéma à la fin des années 50, il a surtout accompagné Jean-Luc Godard en tant que directeur de la photo ou assistant réalisateur sur les tournages du Mépris, des Carabiniers, de deux ou trois choses que je sais d'elle, ou encore évidemment la Chinoise. Même poste d'assistant réalisateur pour Claude Chabrol sur le groupe Bleu Beausserge à double tour et Les Bonnes Femmes. Il a aussi travaillé avec Jacques Rivette, Melville, et il a réalisé seul plusieurs longs-métrages dont Les Baisers, La Chance et l'Amour et Le Dernier Homme.
L'Allemagne a créé la surprise pour la 15e édition de la Biennale d'architecture de Venise en abattant les murs de son pavillon.
Oui, geste extrêmement fort et assez définitif, ce en signe d'ouverture. Quand d'autres pays sont tentés de construire des murs, il n'y a pas de murs, que des portes ouvertes. Et une distribution gratuite de yaourts libanais dans le pavillon national de l'Allemagne à Venise, qui propose donc des symboles en faveur de l'ouverture au monde. Une série de photographies de cartes des quartiers dans lesquels sont logés un certain nombre de migrants, arrivés par centaines de milliers en Allemagne, illustre cette idée de Heimat, l'idée de patrie que l'Allemagne entend transmettre. Les autorités de Venise avaient donné leur accord un peu plus tôt pour que certains des murs du pavillon allemand qui dataient de la période nazie soient bien abattus.
Le président afghan a donné lundi le coup d'envoi des travaux de restauration du palais royal du Dar al-Aman à Kaboul.
Exactement, joyeux des années folles, ravagées par la guerre qui a symbolisé toutes les atrocités des conflits que connaît l'Afghanistan depuis 35 ans. C'est un palais d'un style néoclassique conçu par des architectes français et allemands, détruit donc par l'invasion soviétique et par la guerre civile des années 90. Avec cette reconstruction, le président afghan Ashraf Ghani dit vouloir reconstruire le passé pour poser les bases de l'avenir. Mais il y a un gros débat sur le coût des travaux qui sera d'entre 16,5 et 20 millions de dollars dans un pays qui manque cruellement d'argent.
Gérard Vajman, un petit mot peut-être sur cette histoire de murs abattus à la Biennale d'architecture de Venise, vous qui avez
illimité, c'est
et puis vous avez dirigé une exposition.
Ah non, mais je suis
qui s'appelait Oh That Falls, tout ce qui tombe.
Mais je suis le spécialiste, si je puis utiliser ce terme, mal que je n'aime. Enfin bref, de l'illimitation. La fin, enfin la question des frontières, là-bas. Et en plus, alors ce que ça me rappelle d'un coup, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a une mise en cause de l'infrastructure du pavillon lui-même. Il y a eu, il y a quelques années, j'oublie le nom de l'artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs, quelqu'un qui avait fait un travail absolument stupéfiant, où c'était le premier pavillon qui avait été construit. Il y avait, on entrait, on voyait une photo qui représentait Hitler au moment où il a inauguré le pavillon en 30, je ne sais combien.
38.
Et on contournait l'image et ce qu'on découvrait, c'était l'endroit absolument ruiné. Tout le sol avait été démantelé à coups de marteau-piqueur, sans doute. Et au fond, on voyait ce nom qui devait être celui de Berlin à l'époque, Germania. Moi, ça a été une expérience artistique tout à fait fondamentale. Et donc, les Allemands adorent détruire leurs propres œuvres.
Et leurs propres murs,
oui. Enfin, eux, en matière de frontières, ils s'y connaissent tout de même.
Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de France Culture où il y a une carte de tous les murs du monde qui a été dressée aujourd'hui.
Ah oui.
Nous en allons entre d'autres murs. Il s'agit d'une prison pour femmes dans la série Orange is the New Black.
Okay, right inside the big old hole, there's another hole, like a little one.
Wait, what? I thought you said it was a whole other hole.
It's a hole in a hole.
For the love of God, girl. The hole is not inside the hole. You have your vagina proper, then you have your clitoris. The urethra is located between the clit and the vagina inside the labia minora.
For real?
For real.
Orange is the New Black et le personnage de Laverne Cox hein, qui a fait la une du Time, cette héroïne transsexuelle, c'est elle qui fait le cours précis donc à ses co-détenus de où se situe le clitoris et leur tend un miroir pour mieux le voir. En quoi pour vous, Iris Bray, qui travaille donc sur la révolution sexuelle dans les séries, c'est Orange is the New Black un signal fort à la fois pour de nouvelles sexualités, pour aussi enfin ce fameux mot de clitoris qui est si peu prononcé et puis peut-être voilà sur l'éducation on va dire autour du plaisir féminin.
Alors là c'est assez passionnant parce que c'est le personnage donc de Sophia qui est dans cette prison, qui est la coiffeuse transgenre de Orange is the New Black, qui c'est donc elle qui explique aux autres détenus en fait où se situe l'urètre parce que tout est autour du trou à l'intérieur du trou, c'est le nom de cet épisode là. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que elle explique aux co-détenus qu'elle a ce savoir parce que elle était homme avant et qu'elle a pu observer le sexe féminin. Et c'est maintenant qu'elle est femme, elle peut le partager avec les autres. Donc le savoir, en fait, il est quand même transmis d'un ancien homme dans cette série-là. Et c'est assez passionnant parce qu'elle leur tend ce miroir et toutes les autres femmes se rendent compte qu'elles ne se sont jamais regardées. Et je pense qu'en tant que spectateur et spectatrice, ça nous renvoie en fait à cette image de comment est-ce qu'on a accès au savoir et qui finalement nous parle de sexualité et en tout cas même d'anatomie, c'est-à-dire que même le clitoris a disparu pendant un certain temps, même du Grey's Anatomy, hein, ce vrai bouquin médical.
Qu'il était là chez Hippocrate, hein, vous le rappelez dans votre
livre. Oui, absolument. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que certaines séries en fait s'emparent de ces sujets-là pour finalement faire des petits cours de biologie. Et puis Orange is the New Black, c'est aussi fascinant. Donc c'est un univers carcérale et on est dans une prison de femmes. Donc il y a par essence très peu de personnages masculins ou que des personnages masculins secondaires et des personnages féminins qui ont toutes des sexualités très différentes. Et j'en reviens en fait à cette idée que de sans limite qui moi me fait penser à la femme qui peut avoir des orgasmes multiples, hein, c'est-à-dire jouir finalement sans jamais s'arrêter, qui est une des découvertes de Masters et Johnson dans les années 60, donc puisque c'est vraiment un vrai couple de scientifiques qui a fait les premières recherches un peu approfondies
et qui s'est retrouvé dans la série donc Masters
et qui se retrouve dans la fiction. Donc voilà, en fait c'est des séries comme ça, je trouve, qui proposent des modèles qui sortent un petit peu d'un monde patriarcal. Parfois, c'est presque une utopie. Hein. On parlait tout à l'heure de Transparente en rigolant rapidement. Mais en fait, c'est des séries pour moi qui réinventent en fait des systèmes où finalement la loi du père n'existe pas et le nom du père non plus.
Gérard Vajman, vous, l'homme autour de cette table de ping-pong aux côtés d'Iris Bray, on parlait quand même avec Iris Bray de ces hommes qui ont tâtonné à la découverte de l'anatomie, mais aussi du plaisir, du désir et du discours des femmes tout au long des siècles. Donc dans la série Masters of Sex, on est avec un couple de sexologues. Freud aussi, Sigmund Freud, puisque vous êtes psychanalyste, s'en est mêlé. Et Jacques Lacan, vous êtes psychanalyste au sein d'une école lacanienne. Vous nous proposez cette nuit des séries de la psychanalyse, Les Déglingueuses, Les Nouvelles Femmes du 21e siècle. Une nuit, on va voir des épisodes de séries commentés, discutés, interprétés, non seulement par des psychanalystes, mais des regardeurs et des regardeuses de tout poil. Je suis tombé sur cette interview de Lacan, puisqu'on parlait de savoir, vous parlez de biologie, vous parlez d'anatomie. On est du côté de la science dure avec vous, Iris Bray. Et Lacan de dire, pour moi, la seule science vraie, sérieuse, à suivre, c'est la science-fiction. L'autre, l'officiel qui a ses hôtels dans les laboratoires, avance à tâtons sans juste milieu, elle commence même à avoir peur de son ombre. Alors est-ce que la femme, c'est de la science-fiction, Gérard Vajman ?
Ah oui, 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 sans aucun doute.
Et jusque dans les séries ?
Mais évidemment, jusque dans les séries. Mais parce que là, le maître, le master of sex, c'est vraiment Lacan, enfin pour le coup. Mais c'est pas de ça dont je voudrais dire un mot. C'est reprendre, puisque la question de l'illimitation était tout de même un thème qui a, semble-t-il, qui traversait un peu les choses. Redire d'abord un mot sur la série que vous citiez, qui me paraît en effet absolument passionnante, qui est Girlfriends Experience. Je trouve absolument formidable, mais je ne suis pas sûr que vous ayez raison sur deux points. C'est-à-dire, d'abord, de limiter la question de la jouissance à l'orgasme, qui est une question sans doute, mais de la limiter à ça. Et d'autant moins que cette série, pour ce que j'en ai vu, je ne l'ai pas vraiment bien vue.
Rappelons-le, c'est une call girl, une jeune femme
qui
se prostitue.
Oui, c'est une call girl, une jeune femme, une jeune étudiante en droit qui se qui découvre la prostitution et qui s'engage entièrement là-dedans. Et qui pose exactement la question dont je pense qu'elle est celle qui anime véritablement mon regard, et je pense le regard des regardeurs en général, des spectateurs de ces séries. C'est, vous dites, on voit sa jouissance. Moi, je trouve que toute la série pose la question de savoir où est-ce qu'elle jouit. Qu'est-ce qui la fait jouir, elle? Tout est fait, et je trouve que c'est une des séries les plus intéressantes. Je la reverrai sans doute, je l'ai vue un peu vite, parce qu'elle pose la question, est-ce que c'est le fait, la relation sexuelle qui la fait jouir? Pas tout à fait sûr. Par exemple, on la voit avoir des relations sexuelles avec une certaine joie, manifestement, mais après, elle se masturbe. Bon, donc...
On appelle un chat un chat ce soir.
C'est pas forcément contradictoire.
Sur les ondes de France Culture,
non,
mais le CSA
bien sûr
veille.
Que c'est pas contradictoire. Mais je crois que la série est faite pour interroger ça. Et qu'est-ce que une caméra, qu'est-ce qu'une image peut montrer de ce que c'est que la jouissance? Et parce que la caméra va très loin pour montrer. J'étais frappé, ça m'a étonné. Il n'y a pas d'indication moins interdit ou moins de recommandée pour les enfants et tout ça. Il n'y a aucune indication de ça,
tout public,
parce que je l'ai vu à la télévision. Et il y a des scènes, franchement, que je ne laisserai pas mes petits enfants regarder.
Il risquerait une réaction sur The Girlfriend Experience, donc produit par Soderbergh, mais pas tout à l'heure.
Non seulement on ne sait pas comment elle jouit sexuellement, mais par exemple une des raisons pour lesquelles, la raison pour laquelle elle est foutue dehors de son du bureau d'avocat où elle travaillait, c'est que on passe un extrait de on a filmé une scène où elle couchait avec un type et le mec lui dit de redire une phrase qui est
je jouis d'être
payé. On se demande si c'est pas l'argent qui l'a fait jouer. Je ne dis pas que ce soit ça d'ailleurs, parce que c'est pas du tout les considérations sociologiques ni fantasmatiques. D'ailleurs, on ne sait pas si elle a un fantasme. Le fantasme, c'est une vieille baderne de la psychanalyse aussi, le fantasme de la prostitution chez les femmes. On ne sait pas si c'est ça dans cette série.
Iris Bray, je suis d'accord. De toute façon, c'est une série sur la jouissance et le regard. C'est comme qui regarde quoi, comment est-ce que je me regarde, comment je me filme, hein, puisque dans la deuxième partie, à partir de l'épisode 6, elle est cam girl, donc c'est-à-dire qu'elle se met en scène. Donc il y a vraiment une question de contrôler la caméra et aussi la question de contrôle dans cette jouissance-là.
Et qu'est-ce qu'on voit,
nous, en tant que spectateurs?
Est-ce qu'on
aussi,
voit rien,
puisque,
comme disait Arras,
puisque, non, mais oui, les cadres sont sûr. Extrêmement bien pensés dans cette série. La mise en scène est exceptionnelle, il faut le dire. Et aussi la question de nous-mêmes, en tant que spectateurs, quel plaisir on a à regarder ça. C'est-à-dire que ça nous renvoie aussi à... Enfin, il y a
c'est
plusieurs
assez
couches.
Angoissant. Admettons.
Mais c'est une série angoissante qui est presque filmée comme
qui
un thriller.
Par l'homme de sexe, mensonge et vidéo,
oui. Évidemment.
Steven Soderbergh. Mais comme vous le disiez, Gérard Vajman, dans L'œil absolu, l'un de vos essais, hein, la télévision, le fait de vouloir tout voir comme dans les séries, ou cette série-là en particulier, on est dans le théâtre du péché, mais il n'y a de théâtre que du péché.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
La culture sans limite, un disque plein de péchés, j'espère, Zoé.
Ah, pas de péchés, en tout cas. Enfin, si, beaucoup de péchés, beaucoup de découvertes, beaucoup d'amour. Un disque grandiose sorti vendredi dernier, le grand retour, enfin, le second grand retour en studio d'Idriss Akamour and the Pyramids. Alors, qui sont-ils? C'est un groupe mythique du jazz West Coast, puisqu'ils se sont formés dans les années 70 dans l'Ohio. Ils ont pérégriné un petit peu partout autour de cette figure du saxophoniste Idriss Akamour. Ils ont fait un grand voyage initiatique en Afrique, dont ils ont amené 3 albums sortis en 73, 74 et 76. Ils ont beaucoup tourné en Europe. Ils ont laissé un souvenir extraordinaire de leur performance scénique complètement théâtrale. Et ils se sont séparés en 77 pour le plus grand malheur des mélomanes qui n'ont cessé de collectionner leurs vinyles. Et sous la pression du public, ils se sont refermés 30 ans plus tard. C'était il y a 2 ans pour un album en 2012. Et là, ils reviennent avec un album qui s'appelle We Be All African. Et ils ont enregistré ça à Berlin. Résultat, un afro-jazz funk hyper maîtrisé avec un son absolument léché, comme on peut l'entendre dans le titre qui a donné son nom à l'album.
We all Africans now.
All Africans, extrait donc du dernier album qui s'appelle We Be All African, Idriss Akamor and the Pyramids. C'est sorti chez Strut Records le 27 mai dernier, c'est-à-dire vendredi. C'est disponible chez tous les bons disquaires, évidemment en disque, mais aussi en vinyle et sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Demain, nous serons tous africains grâce à vous et votre disque du jour, Zoé.
Ping pong.
C'est déjà fini.
Mais pas les séries qui sont sans limite, on l'aura compris. Merci beaucoup à tous deux, Iris Bray et Gérard Vajman. Iris Bray, donc, vous signez chez Soap Edition Sex and the Series, sexualité féminine, une révolution télévisuelle. Quant à vous, Gérard Vajman, non content d'avoir signé L'œil absolu chez De Noël et Les experts, La police des morts aux presses universitaires de France, avec toute une clique de déglingueuses et de déglingueurs ou de déglingués, vous nous proposez La nuit des séries et de la psychanalyse, Les nouvelles femmes du 21e siècle. Ce sera vendredi 3 juin, passage du Retz à Paris. Et on peut citer quelques-uns des noms de celles et ceux qui seront à vos côtés.
Bien sûr.
Mais c'est écrit trop petit sur le flyer de mémoire.
Non, mais moi, je les lis, moi. Emmanuel Bernheim, Pascal Bonitzerm, Karim Bordeaux, Marie-Hélène Brousse, Sandrine Corouge, Sandra Laugier, Nathalie Léger, Clotilde Le Guil, David Mabille, Jean-Loup Rivière.
C'est sans fin aussi, comme les bonnes séries à plusieurs saisons.
Et mon fils qui sera là,
Eli Wajman, cinéaste.
Comme cinéaste.
Oui. Et oui. Alors, les travaux pratiques, ce sera entre autres un Masters of Sex, The Girlfriend Experience ou encore Orange is the New Black pour passer votre nuit. Le ping-pong est une jouissance radiophonique illimitée, bien sûr, qui se pratique en équipe. À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau, à la réalisation, à la programmation musicale, Rafik Zénine, à la prise de son ce soir, Pierrick Monsigny et Dofar Garrid.
Mais quid de notre beau lendemain, Mathilde?
Demain, un mythe moderne et napolitain et un spectacle gay bizarre.